Alors, si vous voulez vous lever, on va lire Genèse chapitre 29, les versets 15 à 30. Genèse chapitre 29, les versets 15 à 30. Alors, puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi. Et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qui l'aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Alors, vous pouvez vous asseoir. Alors, j'ai intitulé aujourd'hui la leçon... Le sermon, la main souveraine de Dieu dans la correction de Jacob. Alors, l'idée principale du texte, je pense que c'est ça. Alors, quand on lit un texte comme ça, bien sûr, on lit une histoire par rapport d'un croyant, comment Dieu a agi dans sa vie pour faire des choses bien particulières. Alors, quand on dit la main souveraine de Dieu dans la correction de Jacob, je pense que quand on lit le texte, il faut aussi voir que Dieu fait la même chose dans nos propres vies. La main souveraine, ça veut dire que c'est Dieu qui est le maître, il est le roi, et c'est lui qui permet les circonstances dans nos vies. Les circonstances qu'il permet ont un but précis, souvent, pas tout le temps, souvent c'est de nous améliorer, mais souvent aussi c'est pour nous corriger. Un peu comme on fait avec nos enfants quand ils sont tannants ou qu'ils font des bêtises, des choses vraiment inacceptables, on les reprend. Tous ceux qui ont de l'expérience avec les enfants le savent. Alors, quelque part, on ne peut pas laisser les enfants faire n'importe quoi. Sans ça, ils deviendraient des monstres. Alors, le Seigneur, même après qu'on est né de nouveau, après qu'on lui appartient, il y a des choses dans nos vies à changer. Plein de choses. Et plus particulièrement sur notre caractère. Je me souviens d'un pasteur que j'ai connu, américain, qui m'avait enseigné, il disait, la principale chose que le Seigneur fait dans la vie d'une personne, c'est de le sanctifier son caractère. On a un caractère pécheur et le Seigneur, il va contribuer, il va travailler dans nos vies par de multiples moyens pour nous amener à corriger notre caractère, pour l'amener, notre caractère, à la ressemblance de Jésus-Christ. Imaginez-vous le contrat. C'est un gros contrat, comme on dit. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder la main souveraine de Dieu dans la correction de Jacob et on va chercher à trouver des applications, comment Dieu travaille à nous corriger, nous aussi. Alors, en lisant l'histoire, on va tirer certains principes qui vont s'appliquer aussi à nous. Alors, on va voir que Dieu va travailler dans la vie de Jacob sur 3 choses dans ce texte-là, dans ces 15, versets 15 à 30. Il va d'abord lui faire une correction, un enseignement sur le droit d'aînesse, versets 15 à 21. Ensuite, il va y faire une correction sur le marchandage. On sait que Jacob avait une tendance à marchander avec son frère, par exemple. Mon frère est arrivé. Donne-moi, son frère, il dit, j'ai faim, j'arrive de la chasse, je meurs de faim. Là, lui a fait un échange, il dit, je vais te donner de ce soupe-là, ou de ce mets-là, de ce roux-là, c'est un plat de bine. Il dit, je vais t'en donner, mais en autant qu'en échange, tu me donnes ton droit d'aînesse. Alors, le marchandage. Alors, il y avait une tendance à marchander, et le Seigneur fallait qu'il corrige aussi sur le marchandage. On va voir comment le Seigneur le corrige dans le texte d'aujourd'hui sur le marchandage. Et on va voir aussi que la troisième chose, versets 29 et 30, il va le corriger sur le manque de patience. Parce que dans toute l'histoire, Dieu avait dit que ce serait le plus jeune. Donc, entre lui et Ésaü, ce serait lui qui devait recevoir la bénédiction. Et lui a voulu s'organiser pour l'avoir en trichant. Et on va voir comme que Dieu, oui, il l'a fait sortir, il a permis que son frère Ésaü ne le tue point, alors qu'il avait l'intention de le tuer. Et Dieu a été miséricordieux dans son voyage. On sait qu'il y avait un voyage très long à faire, et Dieu, à peu près au bout de 10% de son voyage, Dieu a permis qu'il voie l'échelle et toute cette histoire-là, qui a été pour lui un très, très grand encouragement pour continuer son voyage. Mais là, on sait que oui, Dieu avait été miséricordieux, mais là, Dieu va permettre qu'il vive des choses extrêmement amères, extrêmement dures. Alors, sa mère pensait, « Va-t'en, là, dans le pays de mon frère, là, puis dans quelques semaines, je vais aller te chercher, puis tu vas revenir. » On sait par le texte des Écritures que non seulement ça a pris 20 ans avant qu'il puisse revenir, et elle est décédée avant qu'elle puisse voir son fils revenir. Alors, ça ne marche pas toujours comme on pense dans la vie chrétienne. Des fois, on s'imagine, on se fait des fûts, on se fait des vues, et le Seigneur nous montre que c'est son décret qui va arriver, sa main souveraine qui va agir dans nos vies pour changer des choses bien particulières. Souvent, c'est pour nous corriger. Alors, Dieu avait fait preuve d'une très grande miséricorde envers Jacob qui avait trompé son père et s'était attiré les foudres de son frère aîné en s'appropriant malhonnêtement la bénédiction. Alors, la bénédiction, de toute façon, elle aurait été à lui. Mais vu qu'il a cherché à intervenir dans les plans de Dieu par la malhonnêteté, Dieu se devait de le corriger. On est en train de voir comment il va le faire. Il n'a pas fini. On va voir que la vie de Jacob, c'est une vie de correction. Dieu avait beaucoup de choses à corriger en lui. Alors, la première chose que Dieu avait fait, il l'avait réconforté dans son voyage et il l'avait rassuré en lui promettant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il lui avait promis 5 choses. Alors, dans son voyage, avant de faire le voyage, au moment qu'il n'avait 10% de fait, Dieu lui avait dit, « Je vais faire 5 choses pour toi. » Il avait dit, « Ma présence, je vais être avec toi. » Il lui avait dit, « Sa protection, je vais te protéger durant tout le voyage. Durant tout le temps que tu vas être dans ce pays-là, je vais te... » Et il lui avait dit aussi, il lui avait donné la direction, il lui avait promis la direction d'être avec lui. Et on a vu que la semaine dernière, quand il était au puits et qu'il a rencontré Rachel, déjà Dieu l'avait conduit au bon endroit, au bon moment. Et il lui avait dit aussi qu'il s'occuperait de lui, donc sa provision, il avait promis sa provision. Est-ce que Dieu nous promet ça à nous aussi? Oui. Il nous promet sa présence, il nous promet sa protection, il nous promet sa direction, il nous promet sa provision, et il nous promet aussi sa fidélité. On est toujours en train de s'inquiéter, vous remarquez ça? Pourtant, Dieu nous fait à nous les mêmes promesses qu'il a faites à Jacob. Pourquoi on est si faible qu'on ne croit pas Dieu sur parole? Si on croirait Dieu sur parole, on resterait toujours calme, on ne s'énerverait jamais, parce qu'on sait que sa main est dans tous les événements qui nous arrivent. Alors, Proverbe 3, versets 11 et 12, ça dit, « Mon fils, ne rejette point la correction de l'Éternel et ne perds pas courage de ce qu'il te reprend. » Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Vous avez déjà eu des enfants, on le sait, quand les enfants font des bêtises énormes, des fois ils font des affaires épouvantables. Si on les laisse à faire, ils deviendraient des monstres, c'est le cas de le dire. On est obligé de les reprendre, des fois les taper, des fois les enseigner des choses, plein de choses. Et on est obligé de le faire régulièrement, hein. C'est pas comme tu le fais à partir de la naissance, aller. Des fois, l'enfant est rendu adulte, puis on est encore en train, des fois, de vouloir lui donner des leçons. On a raison, parce que des fois, il n'a pas tout compris encore. OK. Donc, le Seigneur lui a fait des promesses, et le Seigneur a encore d'importantes leçons à enseigner à son enfant Jacob. Alors, le séjour de Jacob chez Laban va durer 20 ans, parce qu'on le sait par d'autres versets un petit peu plus loin, qu'il a servi 7 ans pour la première, il s'est fait tromper, il a marié Léa alors qu'il pensait que c'était Rachel. La deuxième, il a servi encore 7 ans pour l'obtenir, ça fait 14 ans. Et le Seigneur, au bout de 14 ans, il aurait bien pu dire, maintenant, t'es correct, va-t'en. Il avait encore d'autres choses à lui montrer par rapport au comportement de son beau-père. Lui, il était un petit peu trompeur, il avait tendance à la tromperie. Et il a trouvé vraiment chaussure à son pied. Laban, là, était vraiment un maître trompeur. Alors, et on voit que c'est la main souveraine de Dieu qui travaillait à l'intérieur de tout ça pour amener Jacob à comprendre des principes fondamentaux. Comme nous, on a à apprendre des... Alors, bien sûr, toutes ces années-là ont été souverainement utilisées par le Seigneur pour éduquer Jacob spirituellement, comme il le fait dans nos propres vies. Et nous corriger, le corriger de certains défauts. On a-tu des défauts, nous autres? Ceux qui sont mariés, ils regardent leur conjoint et disent, « Après toi, en es-tu? » Après un certain nombre d'années de mariage, on ne se fait plus d'illusions sur le fait que notre conjoint a des défauts. Comme notre conjoint, il nous congère aussi, puis il sait qu'on en a nous aussi. Alors, les défauts, c'est Dieu qui les corrige et il utilise une multitude de moyens pour le faire. Alors ici, il va utiliser un moyen assez... Ça doit être terrible, là. Toi, tu penses que tu vas marier la plus jeune. Tu as pris un arrangement avec ton beau-père. Pour elle, là, je suis prête à te servir pendant 7 ans. Disons, mettons-le à 40 000 par année, disons. Fait qu'il était prêt à donner 280 000 $, disons. Un exemple, disons. Ça peut être plus que ça. Ça peut être 50 000, disons. Disons 50 000 par année. 7 ans, ça faisait quand même 350 000 $. Il était prêt à donner comme dot pour obtenir la main de sa fille ce montant-là. Alors, c'était beaucoup d'argent. Et le soir, son beau-père, il en passe une petite vite. Et parce que dans ce temps-là, on va le voir un peu plus loin, il se mariait avec des voiles. Et, en tout cas, il s'est fait passer une vite en faisant passer Léa pour Rachel. Et là, Rachel... Pour l'avoir, il est obligé de donner un autre 7 ans. 14 ans. N'oublions pas que sa mère avait dit au bout de quelques semaines, tu vas aller te chercher une femme, tu vas être revenu. C'est pas tout à fait demain, ça s'est passé. Alors, Jacob avait besoin d'apprendre des leçons spirituelles et de corriger certains défauts. Par exemple, le défaut de vouloir s'occuper lui-même de réaliser la promesse de Dieu. Quant au fait qu'il recevrait la bénédiction de l'Alliance, même s'il était le plus jeune et que normalement la bénédiction aurait dû aller au plus vieux. Il a voulu, lui, intervenir dans le plan de Dieu. Et on a vu que ça allait tourner à la catastrophe. Il a passé proche, il a laissé sa vie. Alors, il aurait dû... Dieu devait lui enseigner des choses sur le droit d'aînesse et sur la fourberie, parce qu'on sait qu'il a trompé son père. Il avait aussi abusé de la faiblesse et de la faim de son frère Ésaü pour faire du marchandage, soit échanger son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Donc Jacob avait eu aussi une tendance à marchander lorsque Dieu lui avait fait des promesses dans Genèse 28. On va le voir, quand on retourne un petit peu en arrière dans Genèse 28, on se rend compte que c'était vraiment une caractéristique de sa vie, Jacob, de marchander. Donc, il a marchandé avec Ésaü, mais il avait aussi marchandé dans Genèse 28. Le Seigneur lui avait dit, et voici, à partir du verset 15 jusqu'au verset 15 et le verset 20, 21-22. Et le Seigneur lui avait dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point jusqu'à ce que je t'aie réellement fait ce que je t'ai dit. Dans le verset 20, voyez-vous la tendance au marchandage, il dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, et s'il me donne du pain à manger, le vêtement pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. C'est-tu du marchandage? Autrement dit, Dieu te parle, puis tu dis, on va attendre que ça se réalise, après ça on verra. C'est à peu près ça qu'il disait là. Alors, si Dieu a fait des promesses, il aurait dû le croire, mais c'est comme il marchande. Ben si toutes tes promesses que tu me fais, ça se réalise, là tu vas devenir mon Dieu. Le marchandage. Alors, Dieu va lui donner des leçons sur le droit d'aînesse, puis il va lui donner des leçons sur le marchandage. Et Jacob se devait aussi d'apprendre la patience. On sait que d'après son caractère, quand on regarde sa façon d'agir, Jacob ne savait pas attendre. Est-ce que nous, on sait attendre? Est-ce que nous, on est patient dans ce que Dieu nous envoie ou dans ce qu'on veut? On manque de patience. Mais si on en manque, dites-vous une chose, si en dedans de vous, il y a une petite voix qui dit « oui, t'en manques pas mal », bien Dieu va vous corriger, comme il l'a fait avec Jacob. Alors, il avait besoin d'apprendre la patience. Il aurait dû faire confiance à Dieu pour l'accomplissement de sa promesse, peu importe le temps que ça, c'était pour prendre. Alors, la première chose qu'on va regarder, la première idée, la correction sur le droit d'aînesse, versets 15 à 21. Alors, ici, on a les versets 15 à 18. Il avait besoin d'apprendre à croire que Dieu avait la puissance d'accomplir sa promesse. Et ici, il devra apprendre à servir plutôt qu'à être servi. Pourquoi il a voulu s'approprier du droit d'aînesse? Parce qu'il savait que le plus jeune, le plus vieux, servirait le plus jeune. Alors, il avait voulu être servi plutôt que de servir. Et là, ici, le Seigneur va lui montrer qu'il va être obligé de servir pendant 20 ans avant de sortir du pays. Alors, Genèse 25, 23, lui avait dit, l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. » Autrement dit, c'est à lui le plus petit, puis Ésaü, c'était le plus vieux, c'est lui qui aurait dû hériter des promesses, mais à cause du fait qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de bine, bien, quelque part, c'est le plus jeune. Mais il aurait eu pareil. Mais c'est juste que l'idée qu'il a essayé d'intervenir dans les plans de Dieu en les changeant à son avantage, mais en trichant pour le faire. Genèse 29, versets 15 à 18. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon frère, on sait qu'il avait resté là un mois. Hein. Il est arrivé là, ça allait bien, il a connu sa femme, et il l'a présenté à son beau-père, tout le monde était de bonne humeur. Il a resté là un mois, ça a été tranquille. Au bout d'un mois, là, Laban, il a dit, « Parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Alors, il a simplement proposé, « Dis-moi quel salaire tu vas avoir si tu veux me servir. » Alors, Laban avait deux filles, dont l'aînée s'appelait Léa et la plus jeune, Rachel. On dirait que le texte commence déjà à nous préparer ce qui va arriver. Aînée, cadette. Mais Léa avait les yeux délicats, et Rachel était belle de taille et belle de figure, belle de visage. Et Jacob aimait Rachel. Et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, la plus jeune de tes filles. » Tout semble indiquer que Jacob veut passionnément marier Rachel, la plus jeune fille de Laban. À cette époque, l'homme qui demande la main d'une femme doit offrir à la famille une dot, qu'on appelle. Dans son ouvrage, qui s'appelle « La Genèse, le livre des origines dont je me sers, entre autres outils », qui est publié par Europresse, l'auteur Philippe Evanson, nous informe de la chose suivante, qu'on n'est pas toujours au courant des coutumes à l'époque. Il nous dit « La loi de Moïse prévoit que la dot maximum » que la famille du jeune homme doit verser à celle de la jeune fille se limite à 50 sicles d'argent. On trouve ça dans Deutéronome 22-29. On pense que le salaire moyen mensuel d'un ouvrier à cette époque était d'un demi à un sicle. Alors, Jacob s'apprête donc à donner à Laban l'équivalent de 84 sicles. Alors, il donne plus que ce qui aurait dû être demandé à l'époque. Alors, le prix de la dot de Jacob semble beaucoup plus élevé que de coutume. Sans doute, son amour pour Rachel est grand et il agit de manière précipitée et irréfléchie. Pour obtenir ce qu'il veut, il ne marchande pas comme c'est la manière des Orientaux. Alors, on voit, il est porté à agir trop vite. Il en veut tellement, là, Rachel, qui est prête à donner plus que ce que ça vaut dans la, à l'époque. Puis à l'époque, les gens, quand ils voulaient se marier comme ça, ils marchandaient. Ça, c'est vraiment les Orientaux. Nous, on n'est pas comme ça. On arrive à quelque part ici, on veut acheter quelque chose. Comment ça vaut 25$? Ça peut arriver qu'on marchande. Des fois, il y en a qui sont ouverts au marchandage. Mais en général, on ne marchande pas ici au Québec. En général. Mais là-bas, en Orient, quand tu veux te marier et que, disons, le beau-père t'a demandé tel prix, c'était de la coutume de l'époque de marchander. Il n'a pas marchandé du tout. Autrement dit, cette femme-là, je la veux tellement que je suis prête à donner plus que ça aurait voulu à l'époque. Alors, c'est spécial. Alors, on voit la réponse de Laban. Bien sûr, Laban, il se rend compte qu'il veut y donner plus que qu'est-ce que ça vaut. Alors, Laban, c'est un petit vite aussi. « Ah oui, t'as vu ce point-là? OK, je l'accepte. » Alors, il dit, et Laban lui dit, « Mais écoutez bien la manière de Laban s'exprimer. » Laban, c'est un maître trompeur. Et là, il rencontre un trompeur, mais là, lui, il est le maître, il va donner des leçons. Regardez bien la réponse que ce qu'il dit. Et Laban répondit, « Il vaut mieux que je te la donne que si je la donnais à un autre. » Il n'a pas dit « je te l'accorde et tu vas l'avoir au bout de 7 ans ». Un langage qui peut vouloir dire plusieurs choses en même temps. Ça, c'est vraiment un langage de trompeur. Et il dit « demeure avec moi ». Alors, Laban utilise un langage ambigu, vague et imprécis. Mais on va voir que ça va lui coûter cher d'avoir accepté. Alors, il voulait tellement que la réponse, il aurait dû dire, « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Précise un peu. » Non, il a accepté de même, il s'en est fait passer une méchante, là, très vite. Alors, c'est vraiment le langage utilisé par les personnes qui veulent utiliser de tromperie. Du langage ambigu, qui peut avoir plusieurs sens, du langage qui est vague, du langage qui est... Alors, Jacob, ici, trouve chaussure à son pied. Lui qui a tendance à la tromperie, se laisse berner par son beau-père. La réponse que Laban donne à Jacob n'est pas aussi définie que son neveu le pense. Lui, dans sa tête, Jacob, il devait se dire, « OK, je vais servir 7 ans. Au bout de 7 ans, je vais être ma femme, maman est chez nous. » Au bout de 7 ans, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est retrouvé marié avec Léa. Il s'en est fait passer une petite vite par son beau-père. Alors, il va en faire les frais, bien entendu. Verset 20-21. Là, on apprend que là, il a servi pendant 7 ans. Et il s'attend, il va voir son beau-père, puis il dit, écoute, l'arrangement qu'on a pris, là, c'était que je te sers 7 ans. Mes 7 ans sont faits, donne-moi ma femme. Quand même, 7 ans... Aujourd'hui, là, quand on parle de patience, est-ce que les jeunes sont patients et qu'ils vont attendre 7 ans avant de trouver... Lui, il a attendu longtemps, là, avant de pouvoir trouver sa femme. Alors, il dit... Et Jacob servit donc 7 ans pour Rachel, et il ne lui semblait que quelques jours parce qu'il l'aimait. Pendant 7 ans, il le fréquentait tous les jours, il était avec elle, il était heureux, même s'il ne couchait pas avec. Aujourd'hui, est-ce qu'on attend 7 ans? Et misère! Alors, s'il était patient à cette époque-là, il l'aimait, il a attendu 7 ans avant de dire « donne-moi ma femme ». Alors, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et je viendrai vers elle. » Alors Jacob va vivre 7 ans d'insouciance et de bonheur parce qu'il côtoie quotidiennement la femme qu'il aime. Comme on dit souvent dans le langage québécois, l'amour donne des ailes. Alors il était à côté d'elle, il était heureux. Alors il voit qu'il y a un but à tout cet ouvrage-là qu'il se donne et la perspective de se marier légitimement avec Rachel l'aide à accomplir son travail avec joie. Quand il était chez lui avec sa mère, son désir d'obtenir ce qu'il désirait l'avait incité à tromper les autres. Alors il était... Alors il va ici, il devra avoir à attendre patiemment et travailler honnêtement pour le prix convenu. Rappelons que sa mère lui avait dit d'aller passer quelque temps. Dans sa tête, à elle, ça devait être « Oh, ben dans quelques semaines, là, Ésaü va s'être calmé, là, puis je vais aller te chercher, tu vas t'en venir. » Oh! Pas tout à fait de même, ça s'est passé. Elle avait dit dans le verset, chapitre 27, 45, « Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il ait oublié ce que tu lui as fait. Alors, je t'enverrai chercher de là. » À pencher au donc. Surtout quelques semaines, il va se calmer, là, il va revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Alors, la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est méfions-nous de la pensée magique qui prend ses désirs pour la réalité. Alors, la mère de Jacob, elle, elle s'est dit, « Oh, ben là, il connaît, bon, il va se calmer, là, puis là... » C'est de la pensée magique, hein? Ça va être réglé. Dans quelques semaines, là, tu vas revenir, je vais aller chercher. Elle l'a jamais revu. Spécial. Nous aussi, on est des fois, on importait la pensée magique, de prendre nos désirs pour la réalité. Alors, il y a une leçon. On vit à une époque où les gens ne sont pas prêts à attendre pour quoi que ce soit. Les jeunes veulent souvent vivre ensemble avant le mariage ou même de ne pas se marier du tout. On voit tout ça autour de nous aujourd'hui? On voit ça à tour de bras. Ici, Jacob apprécie donc d'être près de Rachel, mais sans coucher avec elle. Son attitude révèle qu'il y a une véritable amour, une véritable affection pour elle et un authentique respect de sa future épouse. On voit tout ça bien beaucoup encore de nos jours, cette attitude-là? Très peu, très très peu. Alors tout ça, ces 7 ans-là qui étaient heureux à attendre pendant 7 ans, imaginez le lendemain, quand il s'est réveillé, que le mariage a été consommé. Là, on peut se poser toutes sortes de questions. Comment ça se fait qu'il ne l'a pas reconnu? Comment ça, il a dû y parler? Comment ça se fait que... La Bible ne nous donne pas de détails là-dessus. La Bible fait simplement dire, bien, peut-être que des fois, quand les gens se marient, ils prennent un verre, puis les mariés à cette époque-là, quand ils allaient les chercher, ils étaient complètement voilés, ils ne la voyaient pas. Alors, il avait peut-être pris 2-3 verres de vin, je ne sais pas, en tout cas. La Bible ne nous dit pas pourquoi il n'a pas reconnu que c'était Rachel qui était couchée avec elle. Normalement, s'il l'avait reconnu, il aurait dit, mais Dieu permettait qu'il ne le voie pas, de manière à ce que le lendemain matin, il se réveille. « Tu n'es pas bonne femme! » Imaginez! Alors, on voit ici Jacob venir vers son beau-père, le cœur plein de joie, pour réclamer la main de Rachel qu'il va pouvoir enfin épouser et chérir. Maintenant, on va apprendre le deuxième point qu'on voulait regarder, c'est la correction sur... Alors ici, il est en train d'apprendre la correction sur le droit d'aînesse. Mais il va avoir la correction sur le marchandage, versets 22 à 28. Laban, c'est un wise. Il rassemble tous les lieux du Jean et fit un festin. Il arriva le soir qu'il prit Léa, sa fille, et la lui mena. Imaginez, fallait que Léa, elle embarque dans le jeu, elle aussi. Là. Donc, ils vivent l'équivalent de ce que lui a vécu avec sa mère pour aller tromper son père. Deux qui se mettent ensemble pour le tromper. Voyez-vous, Dieu se sert des mêmes moyens que toi tu as utilisés pour te tromper. Utilise les moyens équivalents pour te tromper toi-même. Et Laban donna à Zilpa, son esclave, à Léa, sa fille pour esclave. Il arriva que le matin, que voici que c'était Léa. Et Jacob dit à Laban, là, j'essaie d'imaginer quelqu'un qui pense qu'il est à côté de sa bien-aimée, puis qui, je sais pas, il se réveille le matin, puis, oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ma femme, c'est pas pour elle que je vais travailler 7 ans. Puis là, il est tout offusqué. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit ça à son beau-père. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Parce que là, le mariage t'a consommé, donc il ne peut pas retourner. N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? T'es en train de lui rappeler. Le bargain qu'on a fait ensemble, c'était à Rachel, mais c'était pas à Léa. Et pourquoi m'as-tu trompé? Et oui, Laban est en train de lui donner une leçon. Et Laban lui dit, il ne se fait point ainsi dans notre lieu. De donner la plus jeune avant l'aînée. Voyez-vous? L'aînée, la plus jeune, c'est exactement ce qu'il avait vécu. Et alors, il lui dit, là, il vient lui donner un grand coup de basse en plein front. Accomplis la semaine de celle-ci, la semaine de celle-ci, s'accomplit un autre 7 ans. Parce qu'on parle de 7 ans, c'est une semaine de. Une année par jour de semaine. Accomplis la semaine de celle-ci et nous te donnerons aussi celle-là pour le service que tu feras chez moi durant 7 autres années. Alors, son mariage, ça se pourrait d'y prendre 7 ans d'avoir sa femme, ça lui aurait pris 14 ans. Et Jacob fut ainsi et il accomplit la semaine de celle-ci et Laban lui donna Rachel, sa fille, pour femme. Alors ça lui a pris 14 ans. Alors Jacob avait marchandé malhonnêtement avec son frère Ésaü en lui proposant d'échanger son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, alors qu'Ésaü était dans un état de faiblesse et de vulnérabilité. Il avait ambitionné sur son frère, comme on dit. Jacob avait aussi marchandé quand Dieu lui avait fait des promesses et qu'il lui avait dit, comme on a dit tantôt, « Mais si tu me donnes ci, mais si tu me donnes ça, mais si tu accomplis ta promesse, mais tu vas être mon Dieu. » Le marchandage. Alors ici, bien entendu, Laban va faire preuve d'une très grande malhonnêteté envers Jacob. Il va, en plus, s'assurer la complicité de sa fille Léa. Sa fille Léa, probablement, qu'elle devait avoir quelque chose qu'elle ne paraissait pas aussi bien que sa sœur, et elle avait probablement peur de ne pas se marier, et elle a embarqué dans le jeu de son père pour tromper Jacob. Alors, Léa est entrée dans cette drôle de transaction-là. Alors, pour bien comprendre la fourberie de Laban, on se doit de comprendre la coutume des Orientaux. C'est souvent, quand tu lis des commentaires, il y en a qui connaissent très bien comment les Orientaux agissaient à l'époque. Alors, à cette époque-là, et dans cette partie du monde-là, le mariage inclut normalement une procession vers la maison de la mariée et un retour vers celle de l'époux. Il y avait une procession, il allait chercher la femme chez elle et il la ramenait chez lui. Alors, et là, quand il était de retour, il lisait le contrat de mariage et il y avait un grand festin auquel étaient conviés la famille et les voisins. Tout ça n'a pas changé bien, c'est encore comme ça un petit peu aujourd'hui. Au terme de la première journée, le mari enveloppe de son manteau son épouse qui est voilée durant la cérémonie et l'amène dans la chambre nuptiale où les époux consomment le mariage. Dans la soirée, alors qu'il faisait nuit, Laban remplace Rachel par Léa, l'aînée. Jacob, qui était très certainement de bonne humeur, ne se doute pas un seul instant de la supercherie, et accueille son épouse dans la tente nuptiale. Il faut attendre l'aube le matin. Moi, la seule façon que je m'explique ça, là, c'est que des fois, dans les noces, des gens prennent un verre. Sans qu'ils soient nécessairement saoulés, là. Ça peut être que, bon, il était joyeux, puis il n'a pas regardé qui est à côté de lui, puis il a fait comme si c'était sa femme. Alors, il se réveille le matin et s'aperçoit que Léa repose à ses côtés au lieu de Rachel, sa bien-aimée. Imagine aussi Léa, le lendemain matin, elle qui avait participé à toute cette fourberie-là, que ton mari se lève et dit, « Hey, tu fais ça? Que tu fais là? Qu'elle fait là? » Alors, quelle amère déception. Alors, il doit très certainement être devenu fou de rage. Il a travaillé dur. Et avec patience, pour la fille de ses rêves, il découvre avec stupeur qu'il a été trompé et a épousé sa sœur aînée. Quand il dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu trompé? » Ça témoigne vraiment du choc qu'il a eu et du chagrin qu'il devait ressentir devant ce qui vient de se passer. Et là, la réponse de Laban, je pense qu'il est en train de nous donner l'essence de la correction. Il ne se fait point ici dans notre lieu de donner la plus jeune avant l'aînée. Alors ça le laisse complètement, comme on dit, sans voix, ça n'a plus quoi dire. Si tu vas avoir la deuxième, si tu vas avoir ta vraie épouse, tu vas être obligé de me servir encore un autre 7 ans. Fait que pour l'avoir, il le fait, 7 ans, 14 ans. Alors il est en train d'apprendre des leçons à travers ça. Je peux pas croire que toutes ces choses-là t'arrivent sans que tu te mettes à ressourcer un petit peu tous les événements qui se sont passés, puis de voir qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner à travers cela. Alors, troisième point, il a besoin d'apprendre la patience, les versets 29 et 30. Et Laban donna Bila, son esclave, à Rachel, sa fille pour esclave. Et Jacob alla vers Rachel, et même il aima Rachel plus que Léa. Il a servi Laban pendant 7 autres années, donc 14 ans. Pourquoi les mentions dans les versets mentionnent que Léa s'est fait donner Zilpa, puis l'autre, pourquoi on mentionne les servantes à l'intérieur du texte? Pour une raison bien simple, c'est parce que ces personnes-là vont devenir les mères des tribus, des 12 tribus d'Israël. Parce qu'on va voir que chacun de ces enfants-là vont devenir des tribus d'Israël. Alors, le Seigneur est en train d'utiliser les faiblesses des êtres humains pour bâtir les 12 tribus d'Israël. Donc, les 4 femmes qui sont mentionnées, Léa, Rachel, Zilpa et l'autre, je ne sais plus son nom. En tout cas, ces 4 femmes-là vont devenir les mères. Alors, Dieu, on pourrait dire, qui est le grand metteur en scène là-dedans, met en place les personnages clés. Léa, Rachel, Zilpa et Bila. On va voir la semaine prochaine comment Dieu, à l'intérieur de tous les noms qui sont donnés aux fils des femmes, des 4 femmes. Alors, ils vont avoir chacun un nom précis de... Et on va voir comment ces noms-là sont hautement significatifs. On va vous donner des feuilles la semaine prochaine. C'est la première fois que tu découvres ça, là, les deux bras te tombent à terre. C'est comme les noms signifient l'histoire d'Israël. Quand tu prends les 12 noms que tu mets à côté d'autres avec leur signification, l'histoire d'Israël et aussi l'histoire du salut dans nos propres vies. La première fois que tu découvres ça, là, tu trouves ça tellement fantastique. Dieu est en train d'enseigner, même à travers les noms que les tribus d'Israël ont eus. Et il y a une chose importante qui nous est mentionnée, parce qu'il ne faut pas oublier que le but de la Bible, c'est d'amener le Messie. Le Messie est venu de quelle tribu? Judas. Hébreux 7,14. « Car il est évident que notre Seigneur est issu de Judas. » Tu es en train de nous dire que notre Seigneur Jésus-Christ est issu de Judas. Pourquoi le livre des Hébreux, quand on lit le livre des Hébreux, il y avait un problème. Les Hébreux disaient qu'il ne pouvait pas être un souverain sacrificateur. Il n'était pas un fils de Lévi, parce qu'il fallait que le sacrificateur soit un fils de Lévi. Alors, toute l'épître aux Hébreux a pour but de démontrer pourquoi Jésus pouvait être un souverain sacrificateur, même s'il n'était pas un Lévite. Parce qu'il avait dit « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». On ne rentrera pas là-dedans matin, là, parce que c'est un gros sujet. Mais il reste que, dans le fond, on sait déjà, la Bible nous dit que Jésus était issu de la tribu de Judas. Alors, tandis que Jacob pleure l'anéantissement de ses projets d'avenir, Dieu, lui, réalise tranquillement ses promesses. Il se sert des divers événements de sa vie pour le former et pour en faire un homme meilleur. Il fait la même chose avec nous, là. La correction a beau être douloureuse, mais elle est pour son bien. On va lire le passage dans Hébreux 12, versets 5 à 11. Une leçon qu'on se doit tous d'apprendre. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Alors des fois, le Seigneur va nous reprendre aussi. Et des fois, ça va faire tellement mal qu'on va être proche du découragement. Il dit, ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Ça peut arriver que la correction soit sévère au point qu'on n'est pas sur le bord du découragement. Verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Si on est des enfants de Dieu, Dieu ne nous laissera pas faire n'importe quoi. À un moment donné, il va intervenir et il va nous corriger. Et il dit, « Et il frappe de ses verges. » Quand on lit, on s'arrête, là. « Il frappe de ses... » Une verge, déjà. De ses verges, ça veut dire qu'il utilise différents moyens pour... Il dit qu'il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Il dit, « Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils. Car quel est le père que son fils ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards et non des fils légitimes. » Quand on voit quelqu'un qui se prétend chrétien, qui prend la voie de la désobéissance et de la vie dans le péché, et qu'il n'y a pas de correction dans sa vie, dites-vous une chose, c'est fort probable qu'il n'appartient pas au Seigneur. Parce que le Seigneur dit qu'il corrige celui qui lui appartient. Verset 9, « D'ailleurs, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et nous les avons respectés. Ne serions-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Car nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. » Aujourd'hui, le but du texte, c'est de nous montrer que Dieu avait des choses à corriger dans la vie de Jacob. Sur le droit d'aînesse, sur sa tendance au marchandage et aussi sur la patience. Dieu, dites-vous une chose, si on a des défauts, Dieu aussi corrige nos défauts. Et parfois, ce qui nous arrive, c'est des corrections, et ça fait mal, et ça peut faire mal au point que des fois, on est porté à aller jusqu'au découragement. Alors, trois applications qu'on a à partir du texte d'aujourd'hui. La première, apprenons des bêtises de Jacob. Ne cherchons d'aucune manière à hâter l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand Dieu fait une promesse, on n'a pas besoin de s'interposer dans son plan et essayer de le faire arriver plus vite ou moins vite. Laisse faire, laisse ça dans les mains de Dieu. Alors, toutes, bien sûr, les promesses de Dieu seront accomplies et le Seigneur n'a aucunement besoin de nos interventions. Sachons attendre avec foi et patience. Pas notre fort l'attente, hein? Vous êtes comme moi, monsieur. Vous, c'est votre fort, tant mieux pour vous autres. Deuxième application, remercions le Seigneur de la grâce miséricordieuse qu'il nous fait en nous châtiant pour nos péchés. C'est une grâce, ça fait mal. Quand il te reprend, là, le Seigneur, ceux qui ont le moindrement d'années de vie chrétienne, 15 ans, 20 ans, 25 ans, il nous est arrivé des affaires dans notre vie des fois, que c'est Dieu qui permet que ça arrive, et ça fait mal. Mais remercions-le qu'il nous corrige. Un peu comme un enfant va remercier son père et sa mère plus tard, après plusieurs années, où il va comprendre pourquoi ton père et ta mère te reprenaient comme cela. Alors, en nous châtiant pour nos péchés, Dieu nous fait une grâce. Une grâce, c'est une faveur. Il le fait par amour, il le fait avec sagesse et pour des buts très élevés. Le but, c'est de nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ. On a-tu du chemin à faire pour arriver à là? Ça se sent aux autres un petit peu. On a beaucoup de chemin à faire. Troisième application. Sachons que tôt ou tard, notre péché nous atteindra et que Dieu nous rétribuera pour celui-ci. Des fois, on fait des péchés, puis on s'imagine qu'on n'est pas repris de suite. Puis on imagine qu'on passe par-dessus, qu'on n'aura pas rien pour ça. C'est pour ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Nombre 32, 23, « Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. » Quelqu'un, par exemple, on va prendre un exemple, disons quelqu'un qui vit de l'homosexualité, sur le coup, il peut vivre ça, puis il ne se rend pas compte, puis au bout de 6-7 ans, il va se faire dire, t'as du sida. Sachez que ton péché vous atteindra, futur. Tout péché qu'on fait finit par nous atteindre, finit par nous atteindre. Alors que l'Éternel soit loué, béni et adoré pour sa main sage et souveraine dans les corrections qu'il nous donne pour notre plus grand bien. Amen.